Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos avec vous, avec cette question à la une. Est-ce que notre hôpital est en train de craquer? Est-ce que vous pourrez être bien soigné cet été? Journée de colère des soignants qui réclament des hausses d'effectifs, mais comment recruter? Le métier effraie, des dizaines de services d'urgence limitent leur activité faute de personnel. Emmanuel Macron a commandé une mission flash. Eh bien nous, ce soir, sans attendre, on va essayer de comprendre le malaise. Avec Mathias Vargon, chef de service à Saint-Denis, Marion Malfait, hématologue à Paris, ils seront avec nous à 18h15 en studio. Et vous, les auditeurs soignants, vous nous appelez pour prendre la parole au 3210. Les autres titres à la une, maintenant, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une ce soir, les derniers éléments de l'enquête sur le refus d'obtempérer et les tirs policiers sur une voiture samedi dernier à Paris. Fin de garde à vue pour les trois policiers laissés libres. C'est au tour du conducteur du véhicule désormais d'être entendu. À suivre aussi une aide inflation annoncée par la première ministre pour la rentrée et la victoire de la NUP avant les législatives. Les courses dans le Quintet Plus à Vichy. Il fallait jouer tout à l'heure le 11, le 5, le 2, le 3 et le 6.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du méga paquet législatif sur le climat ou comment le Parlement européen, par son vote demain, pourrait changer votre quotidien. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini Enco. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
Crypto-monnaie, Bitcoin, vous n'y comprenez rien, c'est normal. Pourtant, désormais, certains magasins et même un grand centre commercial parisien acceptent le paiement en crypto-monnaie. Alors ce soir, on relève le défi, on va tout vous expliquer. Au menu également, la grève pleine de panache de l'équipe de foot du Canada et les origines de l'expression bœuf-carotte pour qualifier la police des polices.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour demain?
Un bon arrosage sur l'ensemble du pays.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Les policiers libérés, le conducteur placé en garde à vue, l'enquête se poursuit après le refus d'obtempérer et les tirs mortels de la police samedi à Paris.
Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Le conducteur de la voiture qui a donc tenté d'esquiver un contrôle est désormais en effet entendu par les enquêteurs.
Oui, c'est lui qui aurait mis les policiers en danger en prenant la fuite. C'est en tout cas ce qu'affirment les trois fonctionnaires qui ont tiré. Cet homme de 38 ans, déjà connu des services de police, a été blessé au thorax. Son pronostic vital était engagé. Il n'a pas pu être entendu tout de suite, mais son état s'est amélioré. Il est donc aujourd'hui dans le bureau des enquêteurs.
En revanche, les trois policiers qui ont tiré sur la voiture tuant une passagère ont été laissés libres. Est-ce que ça veut dire que la légitime défense est reconnue, Alice?
Alors non, il est bien trop tôt pour trancher. Ils peuvent tout à fait être convoqués plus tard par un juge d'instruction pour s'expliquer à nouveau. Les enquêteurs de l'IGPN ont déjà entendu plusieurs témoins, passé au crible la vidéosurveillance de la ville, procédé à une recherche balistique sur les lieux de l'intervention et sur les véhicules. Autant d'éléments qui vont être confrontés à la version des policiers.
Et dans l'enquête qui concerne les policiers, justement, Alice, une nouvelle étape a d'ailleurs été franchi aujourd'hui.
Oui, une information judiciaire est ouverte à l'encontre de ces trois fonctionnaires pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Cela signifie que c'est un juge d'instruction qui va mener les investigations. Il va reprendre tous les éléments recueillis par l'IGPN, en rassembler d'autres. Le parquet a lancé un appel à témoins pour décortiquer la séquence de tirs mortels qui n'a duré qu'une dizaine de secondes.
Explication signée Alice Moreno du service police-justice de RTL. Cette affaire devenue politique depuis que Jean-Luc Mélenchon a estimé que la police tue. La première ministre a qualifié de choquant et d'outrancier les propos du chef de file des Insoumis. Elisabeth Borne, qui à la mi-journée chez nos confrères de France Bleu, a par ailleurs annoncé une aide inflation. Objectif, Vincent Derosier, accompagner les ménages les plus modestes face à la hausse des prix.
Oui, avec un chèque dont le montant pourrait avoisiner les 150 euros, enfin plutôt un virement bancaire. Écoutez la première ministre chez nos confrères de France Bleu.
Ce sera une aide versée directement sur le compte en banque en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à la rentrée.
Voilà, pour qui ce virement bancaire ? Ce n'est pas tranché, mais cela pourrait concerner les millions de Français qui ont déjà bénéficié du chèque énergie. Pour l'exécutif, c'est aussi bien sûr un moyen d'éviter une rentrée sociale explosive. Enfin, ce coup de pouce inflation ne remplacera pas le chèque alimentaire promis depuis des mois par l'exécutif, qui sera lui versé aux Français un peu plus tard.
Mais Vincent, je croyais que le gouvernement était en période de réserve, parce que les législatives, c'est dans 5 jours. Elisabeth Borne elle-même est candidate, la chef du gouvernement, elle avait le droit d'annoncer cette mesure là dans ce contexte ?
Alors, j'ai épluché la circulaire du secrétariat général du gouvernement publiée en février dernier.
Vous avez passé un sacré après-midi.
6 pages. Qui dit notamment cette circulaire : les prises de parole du gouvernement ne peuvent aborder les sujets liés à la campagne et surtout consister en des annonces. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, ça ressemble à du « fait ce que je dis, pas ce que je fais ». Oui, ça ressemble à une annonce qu'a dit Elisabeth Borne. Mais Matignon nous explique ce soir que ce n'est pas nouveau et qu'Emmanuel Macron en avait déjà parlé dans sa campagne. Mmh. Donc, selon eux, Elisabeth Borne ne fait qu'apporter une précision.
Les explications de Vincent de Rosier sur cette aide inflation.
Et s'il y a bien un produit qui n'en finit plus d'augmenter, ce sont les carburants. Plus de 13 centimes de hausse la semaine dernière. L'essence repasse au-dessus des 2 euros. Le gasoil à 1,96 €.
Et à 5 jours donc de ce premier tour des législatives, eh bien une décision en forme de victoire pour la NUP, l'Alliance de la gauche.
Exactement. Décision du Conseil d'État. Thomas Desprez, bonsoir.
Bonsoir.
Les différents partis associés à la NUP devaient être comptabilisés séparément pour les résultats. Finalement, ce ne sera qu'un seul et unique parti.
Oui, Jean-Luc Mélenchon 1, Gérald Darmanin 0. C'était une des revendications du patron des Insoumis parce que jusqu'à présent, seuls les candidats de la majorité présidentielle étaient regroupés sous une seule et unique étiquette, Ensemble, alors que le ministère de l'Intérieur, dans un premier temps, avait choisi de ranger les candidats de la NUP en plusieurs petites catégories, les communistes d'un côté, les socialistes de l'autre, les écologistes, les Insoumis, bref, plein de petites familles politiques dispersées, ce qui automatiquement n'était pas très bon au moment de l'affichage des résultats pour la NUP. Mais ce soir, le Conseil des État donne raison à la NUP parce que, je cite, « présenter séparément les partis de l'Union de la gauche porte atteinte à la sincérité de la présentation des résultats. Lundi matin, ce sera donc plus simple pour tout le monde. Il y aura donc la NUP d'un côté, la majorité présidentielle de l'autre, avec les LR, le RN, etc. » Enfin, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un sondage ce soir IFOP qui est publié chez nos confrères de TF1, réalisé, je cite, avant les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police, sondage qui place la NUP en tête des intentions de vote, avec entre 195 et 230 députés à l'Assemblée. Ce n'est pas la majorité espérée, mais ce serait un très gros score pour Jean-Luc Mélenchon.
Thomas Desprez du service politique de RTL et une lecture donc plus facile des résultats pour ce dimanche. La mobilisation aujourd'hui du monde hospitalier pour une meilleure reconnaissance salariale et pour l'augmentation, l'obtention aussi de moyens humains, alors qu'un peu partout dans le pays, des services d'urgence notamment sont obligés de limiter leur activité faute de personnel.
Pénurie dangereuse, comme en a témoigné dans la manifestation parisienne Dominique. Elle travaille aux ressources humaines de l'hôpital Ambroise Paris à Boulogne-Billancourt.
Je suis obligé de limiter les congés aux agents parce que j'y ai une notion de danger derrière. Au mois de décembre, par manque de personnel, ce sont des patients qui donnaient à manger aux patients. Aujourd'hui, on me demande de laver à minuit un patient qui va aller faire un bloc opératoire parce que le matin, j'ai pas le personnel pour pouvoir aller le faire laver. Aujourd'hui, même nous, personnel hospitalier, on envoie nos parents dans des structures où on sait qu'ils vont être mieux soignés. Mes enfants, j'ai une pédiatrie, je les emmènerai jamais dans la pédiatrie de mon hôpital. 2 ans de galère et aujourd'hui, on nous maltraite comme ça. Moi-même, vous voyez, je veux dire, j'ai même plus envie de rester à l'hôpital et j'attends qu'une chose, c'est partir. Après 25 ans d'hôpital, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je ne veux plus entendre parler du soin parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de soin.
Le coup de gueule d'un salarié de la PHP au micro RTL d'Agathe Landais. Vous, les auditeurs soignants, vous nous appelez au 3210, on va vous donner la parole dans quelques minutes.
La manifestation, en tout cas globalement, peu suivie en France. 200 à 300 personnes réunies à Paris, Toulouse, Bordeaux, Grenoble ou Nantes.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant. Vous restez bien branchés sur RTL. On va parler de l'appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie, parce que cet appel, il continue de faire réagir. Même le président ukrainien hausse le ton. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier.
RTL Soir.
18h10, bonne fin de journée. RTL Soir à vos côtés. Votre journal continue avec la réponse ce soir du président ukrainien à Emmanuel Macron.
Qui appelait samedi dans une interview à la presse régionale à ne pas humilier la Russie pour pouvoir régler le conflit ukrainien sur le terrain diplomatique. Et bien voici ce que vient d'en dire Volodymyr Zelensky.
Je ne comprends pas vraiment ce que c'est humilier la Russie. De quoi parle-t-on là? Du fait que depuis 8 ans, il tue des Ukrainiens? Nous, personne ne nous humilie, mais on nous tue.
Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
On vient d'entendre l'agacement du président ukrainien. C'est la dernière réaction en date à cette déclaration d'Emmanuel Macron qui plus largement interroge dans les rangs des alliés.
Et oui, car après 100 jours de guerre, cette déclaration d'Emmanuel Macron passe mal. Beaucoup voient d'un mauvais œil cette volonté de ménager Moscou. Les premiers à réagir ce week-end ont été les Ukrainiens, puis les Pays-Baltes, qui partagent des frontières avec la Russie. Ensuite, il y a eu l'ancien ambassadeur américain en Russie. Et sur Twitter, il écrit « Poutine ne négociera que lorsque son armée ne pourra plus avancer, humiliée ou pas ». Macron devrait se concentrer là-dessus. Cette sortie maladroite du président français s'ajoute aux autres griefs contre lui dans ce conflit. Les Ukrainiens lui reprochent de continuer à parler avec Poutine, un canal de discussion qui ne donne rien de concret selon eux. Ils craignent aussi qu'on leur impose un cessez-le-feu avec des concessions de territoire. Les médias russes, eux aussi, s'en donnent à cœur joie. Ils ont inventé le terme Macroning, cela veut dire appeler beaucoup sans aucune raison.
Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL.
Cette dernière minute, l'effondrement d'un immeuble en construction à Vincennes, près de Paris. Une partie de l'édifice s'est écroulée. Les vitres d'une école à proximité ont été soufflées. L'établissement d'ailleurs a été évacué. Les secours sont sur place et essaient de déterminer s'il y a des victimes. Bilan humain inconnu, a tweeté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
RTL, 18h12, l'affaire a marqué les Jeux Olympiques de Pékin cet hiver. La descente aux enfers d'une toute jeune patineuse russe, Kamila Valieva.
L'athlète âgée de 15 ans, donnée favorite, avait totalement craqué face à des soupçons de dopage, relançant le débat sur l'âge minimum des patineurs et patineuses autorisés en compétition senior. Âge donc qui va être progressivement relevé à 17 ans. C'est la décision qu'a pris aujourd'hui la Fédération internationale de patinage, saluée par la patronne de la discipline en France, Nathalie Péchala.
On a eu des rapports de médecins de la Fédération internationale sur la santé psychologique, la santé physique, physiologique et l'accompagnement qui est nécessaire aux athlètes qui pratiquent des sports à maturité précoce. C'était important de ne pas les jeter dans le grand bain trop rapidement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément des petits ébullons, des petits prodiges très éphémères qui s'en vont aussi très vite. Mais la construction de la patineuse, qu'elle puisse gagner en maturité, de patinage, de chorégraphie, qu'elle puisse faire passer plus d'émotions, s'exprimer sur la glace, c'est un tout, en fait, pour construire des champions et des championnes qui ont envie de rester plus longtemps dans le circuit de compétition.
Voilà, la construction d'une carrière à long terme, finalement. La présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala, jointe par Isabelle Langer pour RTL.
Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, pluie pour quoi, tout le monde?
Quasiment, sauf les Pyrénées. Voilà, au moins c'est simple. Demain matin, seules les régions entre, sauf la Méditerranée, pardon. Mais demain matin, les Pyrénées y échapperont quand même. Ça arrivera dans l'après-midi. La Méditerranée, la façade est, là, il n'y aura pas de pluie. Ce sera quand même bien nuageux. Le gros de la pluie le matin sera entre le sud-ouest et le nord-est. Et elles seront même bien soutenues sur la partie nord. L'après-midi, entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et l'Alsace, là, on va retrouver de la pluie parce que ça se décale vers l'est. Ce sera plus sec mais nuageux près de la Méditerranée. Sur le nord-est, des averses localement orageuses. Et sur l'ouest, on retrouvera des éclaircies entre la Manche, la Bretagne et le nord de l'Aquitaine. Le tout sous des températures en baisse, entre 17 et 23 degrés globalement et de 27 à 30 près de la Méditerranée.
Merci Peggy. Petite pause et ensuite un moment d'échange dans RTL Soir. Vous, les auditeurs soignants, vous avez la parole au 3210. Et vous allez pouvoir discuter avec Mathias Vargon, urgentiste, et Marion Malfait, hématologue, qui vont s'installer en studio après la journée de colère à l'hôpital. Avec ces questions, est-ce que l'hôpital est en train de s'effondrer? Est-ce que vous pourrez être soigné correctement cet été? À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier.
Les invités d'RTL Soir.
18h18. Bonne fin de journée. RTL Soir à présent au chevet de notre hôpital avec cette question. Est-ce qu'il est en train de craquer? En tout cas, appel à l'aide des journées de colère des soignants. Manifestations ces dernières heures dans une cinquantaine de villes pour réclamer encore et toujours du personnel et des hausses de salaire. 120 services d'urgence ont limité ou sont en train de limiter leur activité faute de personnel. Emmanuel Macron a commandé une mission flash, mais ce soir, sans attendre, sur RTL, on va essayer de comprendre le malaise. Avec nous en studio, Mathias Vargon, qui dirige les urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Marion Malfait, hématologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Bonsoir également.
Bonsoir.
Vous allez échanger aussi au bout du fil avec des auditeurs soignants qui vont nous appeler au 3210. Mathias Vargon, quand on dit activité limitée aux urgences, est-ce que c'est déjà très concret chez vous? Il vous manque quoi 30, 40, 50% de personnel pour fonctionner normalement?
Sauf que l'activité n'est pas limitée pour l'instant. Pour l'instant, elle est même en expansion. On explose nos records depuis quelques jours. On n'a jamais eu autant de monde et autant d'hospitalisations. Notre personnel, oui, il manque la moitié du personnel paramédical, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignantes. Et donc, on comble soit avec des heures sup qui ont été augmentées et des primes, soit avec du personnel vacataire ou intérimaire. Et quand ils veulent bien venir.
Pourquoi quand ils veulent bien venir?
Parce qu'ils ont le choix entre les services et que les urgences, c'est le pire des services. Et donc, ils ne veulent pas venir aux urgences, parce qu'ils considèrent que c'est là où on travaille le plus, où on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit de correct. Et donc, ils préfèrent aller dans ce qu'on appelle en salle, c'est-à-dire dans un service de spécialité, d'hospitalisation.
Marion Malfette, vous l'hématologue, est-ce que quand l'hôpital est en mode dégradé, ça veut dire une perte de chance pour vos patients, pour les victimes de cancer?
Oui, je crois qu'on peut le dire. En tout cas, moi, je le pense. Nous, on a, sur une salle de 23 lits, on a 9 lits fermés. Donc on a plus d'un tiers des lits fermés et pour un service qui fonctionnait jusqu'à présent à plein. Les patients qu'on peut pas hospitaliser, c'est patients qui normalement viennent pour pas seulement mais pour souvent des chimiothérapies et quand on a une offre, enfin une capacité réduite, eh bien on peut pas caser tout le monde, donc on décale des patients. Et c'est pas du tout une décision médicale, en fait, on décale les patients parce qu'on n'a pas le choix et qu'on répond aux patients. Ben non, on peut pas vous prendre aujourd'hui parce qu'on n'a pas de place. C'est pas vraiment de la médecine qu'on fait. Ouais.
C'est très concret. Vous avez tenu une conférence de presse il y a quelques jours et je crois que même dans votre cas personnel, votre maman justement, vous avez eu beaucoup de mal à la faire soigner, c'est ça?
Oui. Alors c'était il y a 4 ans, hein, donc ça veut dire que le problème n'est pas nouveau, mais on avait déjà amorcé ce fameux virage ambulatoire dont je crois Monsieur Castaner pas se vantait mais en tout cas se prévalait de cette mue de lits d'hospitalisation conventionnelle en lits d'hôpital de jour. Et donc moi j'avais ma maman il y a 4 ans qui a été diagnostiquée d'un cancer généralisé, qui était très mal, en occlusion, elle avait besoin d'oxygène, elle avait beaucoup de tumeurs dans le ventre, de litres, et elle a été très rapidement vue par un collègue de l'HEGP, donc l'hôpital Georges Pompidou, qui est spécialiste dans le cancer de l'ovaire. Donc grâce à mes réseaux, j'ai pu l'orienter immédiatement dans le bon hôpital, vers le bon service. Et en réalité, elle a pu être vue en consultation et après, on ne lui proposait que de l'hôpital de jour pour lui ponctionner ce liquide dans le ventre parce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un lit pour lui faire de la chimiothérapie. Donc, elle faisait des allers-retours en hôpital de jour. Après, moi, j'ai fini par appeler en demandant « Mais quand même, là, ça ne va pas du tout à la maison. Elle est, j'ai peur qu'elle meure comme ça une nuit parce qu'elle a besoin de soins. » Et donc, la seule solution, il m'a dit « Écoute, vraiment, si tu insistes, il y a peut-être un lit dans une chambre 2, une chambre à 2 en obstétrique à côté d'une maman qui vient d'accoucher, mais bon, évidemment, on pourra pas lui faire de chimiothérapie. » Donc voilà, donc finalement, la situation s'est dégradée, donc elle a été hospitalisée dans le service d'oncologie d'une collègue que je connais d'un hôpital général. Et là, la chimiothérapie a été débutée le lendemain, et 3 semaines après, on a reçu par la poste une convocation pour la pose d'un cathéter et le début d'une chimiothérapie à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Donc c'est vraiment système D, assez ubuesque.
Et ça montre aussi, parce que donc, le docteur Malfette est à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Moi, je ne suis plus à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je l'ai été longtemps. Je suis dans un hôpital général de banlieue. Et en fait, c'est plus souple quand même. Ce genre de choses est plus souple. Ça marche moins par spécialité. On a plus de possibilités d'hospitaliser les patients pas tout à fait dans le service d'hyperspécialisation. Donc là, c'est une vraie différence. Moi, je ne suis pas aussi radical sur l'hospitalisation de jour, mais il faut qu'elle puisse permettre d'hospitaliser des gens quand ils en ont besoin. Il ne faut pas dire que c'est que de l'hospitalisation de jour. Il faut pouvoir avoir un backup derrière pour dire on peut hospitaliser.
C'est-à-dire qu'on a fermé des lits d'hospitalisation conventionnelle. Donc c'est ces lits-là qu'il faudrait réouvrir.
Je voudrais revenir avec vous sur le casse-tête de l'été, parce qu'il y a quand même une question, et nos auditeurs se la posent sans doute aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va pouvoir être soigné correctement cet été? Je voudrais que vous entendiez le témoignage de Valérie, qui est infirmière aux urgences à Colmar et qui nous a appelé au 3210. Écoutez-la.
Nous manquons actuellement de médecins, une bonne dizaine. On s'inquiète énormément pour cette période estivale. Comment on va traiter toutes ces personnes qui vont certainement affluer? Donc les urgences ont demandé en fait du renfort parmi les médecins et chirurgiens de tout l'hôpital Pasteur. Et il a même été rappelé notre ancien chef de service de 76 ans pour venir prêter main forte à l'équipe médicale en souffrance.
Voilà, le septuagénaire qui vient donner un coup de main pour cet été. Il faut que les soignants se reposent, qu'ils coupent aussi, comme tout le monde, cet été. On voit les courbes du Covid qui commencent à frémir. L'été sera compliqué à gérer en termes de planning, Mathias Vargon ?
Alors, la nouveauté, c'est pas les médecins, parce que ça, c'est tous les étés depuis des années où on manque de médecins l'été, où on a recours à des intérimaires très chèrement payés, hein. On en a beaucoup parlé. La grande nouveauté, là, c'est que c'est pas que les médecins, c'est les infirmières aussi. Mmh. En Ile-de-France, par exemple, dans le 93, il y a un hôpital qui a fermé parce qu'il n'y avait pas seulement pas de médecins, mais il n'y avait pas d'infirmières non plus. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Jusqu'à il y a quelques années, on avait des infirmières, mais maintenant, tout le monde est en train de partir, en fait. Il faut bien comprendre que les gens ne restent pas à l'hôpital, que on les garde. Ceux qu'on a, on essaye de les garder avec des primes, avec des primes, mais on ne fait pas venir de nouvelles personnes.
Ça veut dire que le Ségur de la Santé, quand il permet une augmentation de 183 euros net par mois des soignants, ça ne suffit plus à créer des vocations aujourd'hui ?
Ah bah clairement, hein, je pense que non seulement ça ne suffit pas à créer des vocations, mais en fait, après, ça a commencé avant le Covid. Il y avait interurgences, interhôpitaux, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les solutions qu'ils proposent, mais enfin, il y avait quand même un mal-être, et puis on a eu le Covid, et tout le monde a pensé qu'après le Covid, bah, ça s'arrangerait, parce que pendant le Covid, il y a eu de la solidarité, on a vraiment travaillé, tout ça. Puis après le Covid, tout est revenu comme avant, et donc les gens ont décidé de se tirer, en fait.
Et puis il y a des soignants qui n'en peuvent plus aussi. Et on a justement au 3210 Catherine qui nous a appelé depuis Vichy. Elle est aide-soignante à l'hôpital de Vichy. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien, bonsoir docteur Vargonde, bonsoir docteur Malfette.
Alors vous êtes en arrêt de travail en ce moment, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé Catherine?
Le burn-out en fait, trop de pression, on n'arrive plus, on ne peut plus, on n'y arrive plus.
Vous travaillez dans quel service, Catherine ?
Je suis en service, enfin, je ne peux pas trop le dire là tout de suite. Ouais. tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est tous les secteurs, tous les étages de l'hôpital qui sont touchés. Il manque de manipulateurs radio, il y a des salles qui ferment, donc forcément, ça fait un effet boule de neige sur les patients, puisque. Mais il n'y a plus de cabinet privé en ville, donc tout se répercute sur le public. C'est compliqué et puis on...
Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire votre travail comme vous devriez le faire ?
Ah mais clairement. Clairement, on a beau nous dire il y a des journées de job dating, il y a des organisées, mais sauf que ça n'attire plus. Et moi, j'en suis à un tel point que je pars de l'hôpital. J'ai décidé de faire autre chose.
Mathias Vargon, Marion Malfette, le témoignage de Catherine Avichy, j'imagine qu'il fait écho à des situations que vous avez déjà connues autour de vous dans vos services.
Ah oui, tout à fait. Ça fait déjà plusieurs années. Alors, il y a quelques années, c'était surtout sur le plan médical que j'ai commencé à avoir des burn-out, des collègues qui partaient. Et là, maintenant, effectivement, ça touche les infirmières qui sont en grande souffrance. En fait, il faut comprendre, vous parliez tout à l'heure des 183 euros de revalorisation du Ségur. En fait, ça a été vécu surtout comme un rattrapage, parce qu'il y avait eu un gel du point d'indice. Et finalement, les 183 euros, c'était plutôt du rattrapage. Et de toute façon, c'est vrai que l'argent, ça ne suffit plus, parce que les conditions de travail sont telles, il y a une pression telle pour ceux qui restent, ceux qui restent partent, et que pour ceux qui restent, c'est encore plus insoutenable.
Le mot de la fin, Mathias Vargon, on fait comment pour recruter, pour ressusciter les vocations, éviter l'épuisement ?
Alors évidemment qu'il va falloir remettre des salaires un peu au niveau de la population générale, parce que c'est quand même... Les gens ont moins de vie sociale que les autres, hein, on le disait tout à l'heure. Mais surtout, il va falloir que les gens ils puissent s'épanouir au travail, c'est-à-dire changer les conditions de travail, changer les conditions de management, revoir un peu comment on s'épanouit. Hein. Dans toute entreprise, on peut monter en grade ou faire autre chose. À l'hôpital, quand on est infirmière, on n'a pas beaucoup de possibilités.
Et en urgence, pour cet été, je pense qu'il faut vraiment revaloriser le travail de nuit, le travail de week-end, parce que la pénibilité, elle est pour l'instant pas du tout reconnue. 1,07€ brut de plus que la journée pour travailler de nuit, c'est pas possible.
Merci Marion Malfette, hématologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Merci Mathias Vergon, chef de service aux urgences à Saint-Denis. Merci à Valérie et à Catherine pour leur témoignage. Merci à tous pour vous, cet échange, cette discussion ce soir qui nous permet aussi de mieux comprendre cette crise sans fin à l'hôpital et ce malaise. Merci. RTL Soir va revenir dans un instant avec tout autre chose. Il y aura vos dessous de l'actu. On va vous expliquer ce méga paquet législatif sur le climat que va voter demain le Parlement européen, qui pourrait bien bouleverser votre quotidien. Et puis laissez-vous tenter dernière. On vous dira tout, notamment sur là, rien à voir, le dernier Jurassic World, sixième volet de la saga américaine. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. 18h31, vous écoutez RTL.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Si vous allumez à l'instant la radio, les trois grands titres de l'actualité résumés par Marion Calais.
Les trois policiers placés en garde à vue pour avoir tiré sur une voiture samedi dernier à Paris après un refus d'obtempérer sont sortis libres tout à l'heure sans poursuite judiciaire à ce stade. C'est désormais le conducteur du véhicule qui est entendu. L'effondrement d'une partie d'un immeuble en rénovation à Vincennes près de Paris. Le bilan humain reste pour l'heure toujours inconnu. Des vérifications sont en cours. Et puis à 5 jours du premier tour des législatives, le Conseil d'État demande à ce que la NUP soit considérée comme une nuance politique à part entière. Les scores des différents partis qui la composent ne seront pas comptés séparément.
Merci Marion. Le temps pour demain, une tendance humide, c'est ça Peggy ?
Exactement, avec une perturbation active qui va balayer le pays d'ouest en est et seule la Méditerranée y échappera. 17 à 23 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 30 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Avec les dessous d'un vote qui pourrait changer votre quotidien. Demain, le Parlement européen tranchera sur le méga paquet législatif sur le climat. En clair, Bruxelles veut aller plus vite, plus fort, plus vert, avec des mesures très concrètes qui sont donc proposées aux eurodéputés. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
Des mesures parfois très symboliques.
Ah oui, la première, c'est la fin de la voiture thermique, donc voiture essence et diesel en 2035. Quand je dis la fin, c'est la fin de la commercialisation des voitures neuves qui émettent du carbone. Si le texte est voté, vous pourrez encore rouler avec votre voiture thermique, vous pourrez encore en acheter une d'occasion, mais il n'y aura plus de voitures neuves à essence ou diesel dans les concessions dans toute l'Union européenne. Place à l'électrique. Deuxième exemple, taxer justement le transport aérien qui pollue. Jusqu'à présent, les compagnies aériennes sont exemptées de payer le juste prix du carbone qu'elles émettent. Toutes les compagnies sont concernées, et pas seulement pour des vols à l'intérieur de l'Europe, mais aussi pour des vols internationaux qui décollent de l'Union européenne. Pareil pour le transport maritime. Enfin, la fameuse taxe carbone aux frontières. Les entreprises européennes paient une taxe pour le carbone qu'elles émettent dans le ciel. Quand elles fabriquent de l'acier, du plastique, désormais, les entreprises chinoises, américaines, qui veulent importer chez nous, seront elles aussi soumises à cette taxe.
Quel est l'objectif de Bruxelles avec un tel texte, s'il passe bien entendu ?
Ah ben l'objectif, c'est de répondre aux préoccupations du GIEC. C'est donc moins 55% de gaz à effet de serre d'ici 2030, ça va aller vite, et surtout zéro gaz à effet de serre d'ici 2050.
Alors, avant le vote demain, il y a eu les débats aujourd'hui, et à gauche comme à droite. On a tenté de peser sur ce texte, de le faire bouger, les lobbies n'étaient pas loin.
Ah oui, lobby de l'agriculture, lobby de l'automobile, aussi déjà sur la fin de la voiture thermique. Les constructeurs, et notamment les Allemands, tentent de faire sortir du texte législatif européen les gros cylindres, les voitures haut de gamme. Une partie de la droite et de l'extrême droite européenne vont dans ce sens, arguant que le secteur automobile perdrait des dizaines de milliers d'emplois si la voiture thermique disparaissait. Vote au Parlement européen demain après-midi.
Et on suivra ça avec vous, les dessous de ce méga paquet législatif. Vote demain, donc vous l'avez dit, au Parlement européen. Merci beaucoup Bénédicte.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière. Maintenant, toute la bande de LVT tous les soirs à cette heure-ci. Et on parle cinéma maintenant, parce que Stéphane Boutsock, notre spécialiste, est avec nous. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Alors demain, sur les grands écrans, Jurassic World, le monde d'après. Sixième épisode, ouais, quand sixième. Même, déjà, de la saga Jurassic Park. Et vous nous dites que, en quelque sorte, c'est vraiment le début de l'été au cinéma. Avec, ça y est, le débarquement annoncé des traditionnelles grosses machines.
Bon, Top Gun Maverick a donné le temps, ouais, il y a maintenant 2 semaines, déjà plus de 2 millions et demi d'entrées. Mais sachez que les dinosaures créés par Spielberg, c'était il y a 30 ans. Oh, et c'est Spielberg, figurez-vous, qui a inventé ce qu'on appelle le blockbuster estival, donc ces grosses productions qui attirent du monde. Personne ne croyait à son petit film de 75. Lui s'est accroché. Résultat, les Dents de la Mer, 500 millions de dollars de recettes.
Alors, que nous réserve l'été qui arrive?
22 juin, notez bien, vous découvrirez Buzz l'éclair des studios Disney-Pixar. En fait, c'est un film d'animation, bien sûr, qui raconte l'origine du personnage qui est devenu un jouet
dans Toy Story.
Dans la saga Toy Story, absolument. Ce même jour, 22 juin. Elvis, Baz Luhrmann, comme son nom l'indique, l'histoire du roi du rock à travers sa relation complexe avec son manager, le colonel Parker. Vous allez découvrir un jeune acteur qui s'appelle Austin Butler et Tom Hanks. Et puis, le 6 juillet, retour de petites créatures jaunes à la fois crétines et géniales. Les Minions 2.
Non, les Minions.
Mais oui, il était une fois Gru des studios Illumination avec toujours la voix de Gad Elmaleh. Si vous aimez les super-héros Marvel, notez le 13 juillet, Thor et son gros marteau seront de retour avec Love and Thunder. Je vous signale aussi le 24 août, 3000 ans à t'attendre, conte fantastique signé George Miller, autrement dit le papa de Mad Max.
Donc un été très très américain. Est-ce qu'il y a aussi des grosses sorties bleu, blanc, rouge?
Absolument, l'été c'est aussi maintenant chez nous un rendez-vous incontournable. Notez, tiens par exemple, le film L'Homme Parfait avec Didier Bourdon et Pef, ça c'est pour le 22 juin. Le 29 juin, comédie irrésistible signée Jérôme Commandeur, ça s'appelle Irréductible. Les gamins retrouveront leur copain Ducobu le 13 juillet. Je pourrais aussi vous citer Joyeuse Retraite 2 avec Michel Larocque et Thierry Lhermitte, ou encore Rumba la vie avec Franck Dubosc le 24 août. L'été va être chargé.
Et en tout cas, c'était déjà l'été ce soir, grâce à vous Stéphane Boutsock. Merci pour le programme alléchant des semaines à venir. Merci beaucoup Stéphane.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Céline Landreau et Laurent Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors on va défaire avec vous les crypto-monnaies parce qu'on peut payer en bitcoin, ça y est, dans certains magasins parisiens. Mais au fait, c'est quoi une crypto-monnaie? Vous n'y comprenez peut-être rien. Moi non plus, ouais. Ça tombe bien. On vous explique tout juste après ça.
Ça a été dur.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.